Écoute, RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, journal que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, les États-Unis de retour dans le giron de l'Organisation mondiale de la santé. C'était une promesse de Joe Biden et c'est un soulagement pour l'organisation d'un point de vue financier. Les explications dans un instant.
Nous reviendrons également sur le dossier Alexei Navalny. L'opposant russe a été arrêté à son retour à Moscou dimanche dernier. Bruxelles réclame sa libération immédiate. Vous l'entendrez.
Et puis en France, une charte pour l'islam qui peine à convaincre les intéressés. Elle peine en tout cas à convaincre les membres des fédérations du CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
C'est l'une des conséquences du changement de locataire à la Maison-Blanche. Les États-Unis vont à nouveau rejoindre l'OMS.
Oui, l'annonce a été faite ce matin par le docteur Anthony Fauci, le principal conseiller sur le Covid-19 du nouveau président américain, Joe Biden. Il occupait déjà ce poste sous le mandat de Donald Trump. Donald Trump qui avait, on se le rappelle, retiré son pays de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui n'avait pas été sans conséquence sur l'agence onusienne puisque Washington participe à hauteur de 15% du budget de l'OMS chaque année, soit l'équivalent de 400 millions de dollars. Écoutez la réaction du docteur Machidiso Moeti, elle est la directrice Afrique de l'OMS.
C'est une nouvelle importante. D'abord, les États-Unis sont le plus gros donateur de l'OMS et l'impact sur le financement de l'organisation et de notre travail avait été significatif lorsque leur retrait avait été annoncé. Deuxièmement, c'est important car cet État membre, qui a de grandes capacités en termes de santé, travailler de manière multilatérale avec l'OMS et d'autres institutions. Donc pour l'Afrique, c'est majeur car les États-Unis sont un des plus grands partenaires des programmes de développement dans le secteur de la santé sur le continent. Et si nous travaillons avec eux, cela va encore faciliter ces aides bilatérales. Ils rejoignent aussi l'initiative COVAX, ce partenariat pour aider les pays pauvres à accéder aux vaccins. Cela montre qu'un pays riche peut adhérer à un principe d'équité et de solidarité et contribuer, y compris financièrement, à aider d'autres pays à avoir accès à ces outils.
Voilà, docteur Machidiso Moeti, directrice Afrique de l'Organisation mondiale de la santé.
Toujours concernant le Covid-19, un autre organisme, la Banque mondiale, va distribuer des vaccins au Liban d'ici le début du mois de février.
Et c'est la première opération financée par la Banque mondiale pour aider un pays à la vaccination. En plus de la violente crise économique que traverse le pays, le Liban affronte aussi une hausse sans précédent du nombre de contaminations et d'infections. Patricia Lecomte.
La Banque mondiale débloque 34 millions de dollars pour fournir des vaccins contre le Covid-19 à plus de 2 millions de Libanais alors que le pays fait face à une hausse sans précédent du nombre de cas d'infection. Depuis le début de l'année, le Liban enregistre chaque jour 5500 nouveaux cas. Actuellement, le taux de positivité est de 17% alors que l'Organisation mondiale de la santé indique un taux maximum de 5%. Malgré le prolongement d'un confinement strict, le pays ne parvient pas à faire baisser le nombre de contaminations et de décès. La crise sanitaire s'ajoute à la crise économique débutée à l'automne 2019. Depuis des décennies, c'est la pire récession qu'affronte le Liban. En 2020, le PIB a chuté de 19,5%, le taux d'inflation dépasse 133% et 45% de la population vit sous le seuil d'extrême pauvreté. Dans un tel contexte, la Banque mondiale a approuvé le 12 janvier une aide d'urgence de 246 millions de dollars sous forme de transfert d'argent afin d'aider directement les Libanais les plus pauvres. L'aide annoncée ce jeudi pour l'achat de vaccins fait partie d'un projet sanitaire plus global de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement d'un montant de 95 800 000 dollars.
Patricia Lecomte. La lutte contre la pandémie qui est aussi à l'agenda d'un sommet européen ce soir.
Un rendez-vous par visioconférence entre les 27 dirigeants de l'Union européenne. Il s'agit de s'accorder sur des mesures coordonnées, donc des mesures communes, notamment une possible restriction de déplacement d'un pays à un autre. Par ailleurs, en France, Emmanuel Macron s'est aujourd'hui adressé aux étudiants à l'occasion d'un déplacement à l'université de Paris-Saclay, le chef de l'État qui promet que ces étudiants pourront retourner un jour par semaine dans leurs universités. Il promet également un accès à 2 repas par jour à 1 €. Le retour à la normalité ne se fera toutefois pas avant le premier semestre de l'année prochaine, a-t-il toutefois rappelé, soulignant, je cite, que les prochaines semaines vont être assez dures. Ce soir, on dénombre près de 23 000 contaminations au Covid-19 en France, plus de 300 morts en 24 heures également. Le nombre de patients hospitalisés, y compris en réanimation, est également à la hausse.
Le journal en français facile.
Sur Radio France Internationale en direct de Paris et de Bruxelles, où il est 21h, on évoquait à l'instant cette réunion entre les dirigeants des 27 pays européens. Un peu plus tôt, ce sont les eurodéputés qui se sont penchés sur le cas Alexei Navalny.
Oui, ils ont adopté une résolution, ces eurodéputés, une résolution qui condamne l'arrestation de l'opposant russe. C'était dimanche, juste après son arrivée à l'aéroport de Moscou en provenance d'Allemagne. Les élus demande sa libération immédiate ainsi que celle des 70 personnes qui l'attendaient à l'aéroport et qui ont également été arrêtées. RFI Bruxelles, Diana Hochstein.
Pour les eurodéputés, l'arrestation d'Alexei Navalny est un moyen de le réduire au silence, voire de l'éliminer à l'approche des élections en Russie cet automne. Les parlementaires demandent d'élargir le régime de sanctions qui frappe la Russie. Raphaël Glucksmann, eurodéputé français, membre de la délégation socialiste.
Souvenons-nous des mots prononcés dans ce Parlement par M. Navalny lui-même. « Si vous voulez, nous dit-il, nous aider à combattre ce régime, alors sanctionnez les oligarques qui dépensent chez vous l'argent qu'ils veulent chez nous. Montrons qu'on ne peut pas à la fois violer les droits humains à Moscou et dépenser son argent à Courchevel ou sur la Côte d'Azur. »
De nombreux députés veulent aller plus loin et demandent de mettre un terme au projet de gazoduc Nord Stream 2 qui doit intensifier le transit de gaz entre l'Allemagne et la Russie. Réponse de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
C'est un projet mené par des compagnies privées. La Commission européenne considère qu'il ne permettra pas de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Mais nous ne pouvons pas empêcher ces entreprises de le construire si le gouvernement allemand le soutient.
Le nouveau régime de sanctions sera examiné lundi lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères, promet le chef de la diplomatie. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
En bref, l'Irak frappé ce matin par un double attentat suicide.
Deux kamikazes qui ont actionné leurs explosifs sur un marché très fréquenté du centre de la capitale Bagdad. Un bilan au moins 32 morts et plus d'une centaine de blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière à Bagdad depuis 3 ans.
Il est 21h08 ici à Paris, retour en France, et l'on reparle de cette charte de l'islam de France, un texte salué par l'Élysée lundi.
Et un texte qui précise que ses signataires s'engagent à respecter les valeurs de la République et que celles-ci sont placées au-dessus de celles de la religion. 5 des fédérations composant le CFCM, le Conseil français du culte musulman, l'ont signé lundi. Les autres, après avoir donné un accord de principe, ont finalement annoncé hier qu'elles ne signeraient pas le document en l'état, Marie Cazadebé.
Dans un communiqué commun, 2 organisations représentant des musulmans d'origine turque et 1/3 proche d'un courant rigoriste regrettent que cette charte ait été signée par certaines fédérations du CFCM avant d'être sûr que l'ensemble des composantes y adhèrent. Mais surtout, avant qu'elles n'aient eu le temps de consulter leur base, c'est-à-dire les imams des mosquées qu'elles gèrent à travers la France. D'autant que cette charte les concerne en premier lieu, elle entérine le projet de création d'un conseil national des imams qui doit permettre de labelliser les imams exerçant en France. Un reproche qui ne vient d'ailleurs pas que de ces 3 fédérations frondeuses. Le délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, estime que toute cette affaire a été gérée à l'envers, que les consultations auraient dû commencer dans les régions et que les imams auraient dû participer aux discussions. Mais le président de la République a son propre agenda et il fallait s'y plier, conclut-il. Dans son communiqué, les 3 associations estiment aussi que certaines déclarations présentaient un caractère accusatoire et marginalisant envers les musulmans. Abdallah Zekri constate que dans sa région. Une grande majorité d'imams refusent de reconnaître cette charte, la considérant insultante. Ils rappellent qu'un tel document n'a jamais été soumis à des rabbins ou des prêtres.
Marie Cazadebé, et ainsi s'achève cette édition du journal en français facile. Il est 21h et presque 10 minutes ici à Paris. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.